Donc les miracles sont très importants. Les disciples de Jean-Baptiste, envoyés par leur maître s'enquérir si Jésus était vraiment celui que les prophètes avaient annoncé, ou bien s'il fallait en attendre un autre, remportèrent cette réponse catégorique. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Hein, c'est dans Saint Matthieu, chapitre 11, verset 15. Le Christ devait faire des miracles. Là, c'est Saint Thomas d'Aquin qui, la théologie très, très affirmative et très forte. Le Christ devait faire des miracles. Alors donc, quand Saint Thomas d'Aquin dit cela, ça veut dire, par rapport à des théologiens contemporains, « Oh, mais il n'en a pas fait, et ça a été inventé. Ah. Mais s'il en a fait, il aurait pu ne pas en faire. » Bien, voyez-vous, par rapport à la faiblesse de notre nature humaine, il était bon que le Christ en fît des miracles. Il ne s'agit pas d'une obligation rigoureuse, bien entendu. On n'a pas à imposer à Dieu ce qu'il doit faire. Le Fils de Dieu n'était pas plus tenu de faire des miracles que de s'incarner, ni de verser son sang pour les hommes. Mais, pour la réalisation du plan qu'il avait spontanément adopté et librement, les miracles étaient nécessaires. Une doctrine, en effet, ne s'impose à l'esprit humain qu'à la condition d'être appuyée par des arguments capables de satisfaire les exigences de sa raison. Et si actuellement nous avons tellement de problèmes, c'est aussi parce que les prêtres, depuis 50 ans, ne parlent plus d'un miracle. Et d'ailleurs, par un retour des choses, vous avez des communautés qui, elles, vont ne parler que de miracles actuellement. Et ça, c'est justement, c'est à cause du vide. Et qui vont souhaiter avoir des séances de guérison, des séances de guérison même corporelles, nécessaires, où le Saint-Esprit il a intérêt à faire des miracles. Hein. Tiens, il y a toujours pas, y a pas quelqu'un qui s'est levé ou quelqu'un qui a une parole de connaissance qui dit parmi vous, il y en a un qui avait un cancer et qui l'a plus. Vous voyez. Et là, vous voyez. Bon, il y en a un qui avait un cancer et qui l'a plus. Bon, il le savait pas. Il en avait un. Il en a plus. Il le sait toujours pas. Donc tout va bien. Oui, mais voyez-vous, des séances de guérison, c'est très bien. Mais pour ma part, comme scribe, n'est-ce pas, du Nouveau Testament, l'évêque est désigné comme successeur des apôtres pour constater les miracles. C'est embêtant qu'on ne puisse pas constater un miracle. D'autant plus qu'il y a suffisamment de soins palliatifs actuellement en France et de dossiers médicaux pour que une personne pleine de charisme aille à Jeanne Garnier, fasse une belle prière à l'Esprit Saint et qu'il y ait 2-3 personnes en cancer terminal qui se lèvent, guéries. Là, je peux vous assurer que ça serait du extraordinaire. Seulement, voilà, le problème, c'est que de nos jours, quand on nous dit il y a des miracles ici, des miracles là, le Christ lui-même nous avait prévenu qu'il y aurait beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles qui n'en sont pas. Il faut toujours avoir, même si l'évêque ne croit pas au miracle, il faudra le contraindre à constater un miracle. Il faut être courageux. La doctrine évangélique étant l'expression de la pensée divine est pour l'homme une vérité surnaturelle dont les arguments sont insaisissables par l'intelligence humaine, c'est-à-dire dépasse notre la logique de notre raison. Que Jésus soit ressuscité, c'est un fait surnaturel. Et quand bien même on aurait assisté à la résurrection du Christ, on ne pourrait pas, notre raison glisserait sur le fait. C'est pas normal qu'un homme ressuscite. Tous les hommes qui meurent pourrissent. On n'a pas vu quelqu'un ressusciter. Certains ont vu des morts ressusciter. L'année prochaine, on fête Saint-Vincent Ferrier, qui a ressuscité environ une vingtaine de morts. Et donc il y a eu des témoins de ces morts ressuscités. Et mais pour nous, on le voit, on le constate, mais ça ne nous oblige pas à croire en la Sainte Trinité. Ça ne nous oblige pas à croire que Jésus est le Verbe du Père. Pourquoi ? Eh bien parce que de manière extraordinairement fine, quelqu'un va donner un liquide qui baisse le rythme cardiaque d'une personne qui devient blafarde, qui semble être morte. Et vous voyez quelqu'un, vous croyez que la personne est vraiment morte, et cette personne revient à la vie, et donc peut vous faire croire à n'importe quelle doctrine, parce qu'il a opéré cette résurrection. Donc, faites attention aux miracles et leur lien avec le surnaturel et à la foi. Ce sont des éléments qui nous poussent à croire. Mais ça ne sera jamais absolu sur la raison humaine. D'ailleurs, lorsqu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de miracles, combien de jeunes considéreront que c'est faux ? Aussi bien par les hommes de Dieu, par les saints, que par les démons. Parce qu'on se dira, bon, c'est de la réalité augmentée. Vous voyez, quand Mélenchon faisait ses meetings avec des hologrammes, le jour où vous aurez des projecteurs 10 fois, 100 fois plus puissants au point de vue de la concentration lumineuse, vous aurez l'impression de voir quelqu'un. Hein. Et même de le voir transpirer. Certainement. Enfin, si c'est vraiment un hologramme, vous pourrez le gifler, ça pioum, ça passera de l'autre côté. Mais je vous assure que dans le futur, peu de personnes croiront dans les miracles. Il faudra, même si ce sont des miracles solaires comme à Fatima, on en rira. Oui. On dira, waouh, et donc qu'est-ce que la CIA est maintenant capable de faire? Ben oui. Eh oui, on considérera que ce sont des manipulations par des satellites, par des machins. Qui pourra être véritablement touché par des prodiges à la fin des temps? C'est pour ça qu'il y en aura dans tous les sens et que le Christ nous prévient. Mais nous sommes intrigués par ce qui dépasse sensiblement les lois naturelles. Et donc, quelle est une des causes, si vous voulez, de notre adhésion à une vérité? C'est l'autorité de celui qui nous parle. La foi est fondée, écoutez-moi bien, sur l'autorité de celui qui parle. C'est sur sa véracité, sur le fait qu'il a été constant dans ses affirmations et qu'il a une vie conforme à ce qu'il dit. Ça, c'est très important. Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. On le sait, cela. On le sait comme l'existence de Dieu. Que Dieu soit Père, Fils et Saint-Esprit, on le croit. Mais que Dieu existe, qu'il y a un être qui soit la cause de l'être des autres, et qu'il lui-même soit hors du temps et éternel, ça, tout le monde le sent et tout le monde le sait. C'est une maladie que l'athéisme. Tous les peuples ont considéré que la divinité existait parce que il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas de choses complexes sans un ingénieur, sans un créateur. Eh bien, ici, dans la foi, il y a l'autorité de celui qui existe. Or, Dieu, lui, ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Il ne serait pas le créateur. Il serait indigne de Dieu de mentir ou de nous dire des choses fausses. C'est pas possible. Et donc, ici, on voit que le miracle aide à considérer que ce qui nous est dit vient du vrai Dieu, qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. C'est une béquille, le miracle. C'est une aide. Mais en soi, voyez-vous, rien ne peut remplacer dans votre âme la considération que c'est Dieu qui ne peut ni se tromper ni me tromper, qui me parle. Le miracle vous aide. La sainteté de vie des prophètes, des âmes saintes, vous aide à considérer que ça vient de Dieu. Toute la difficulté dans notre vie, c'est de savoir si ça vient de Dieu ou si ça vient pas de Dieu. Et saint Ignace de Loyola s'était spécialisé dans le discernement des esprits. Jusqu'à la moindre pensée que nous avons. Et est-ce que, quand je suis triste, j'ai un bon motif d'être triste? Ou est-ce que je suis dans l'erreur? Est-ce que, si je suis dans la consolation et la joie, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pour une bonne raison? Voyez, vous avez tué votre associé dans une entreprise et vous allez avoir ses parts. Vous êtes joyeux. Voyez, mais c'est une joie mauvaise, terrestre. Mais sur le coup, quand même. Voyez, vous l'avez poussé dans l'eau. Aucune possibilité de. C'est le meilleur des meurtres, la noyade par en poussant quelqu'un dans l'eau. Par contre, il ne faut pas que vous soyez, qu'on puisse prouver que vous étiez là. Alors. Il y a vraiment aucune trace, rien, enfin c'est extraordinaire. C'est à l'Institut de criminologie qu'on nous a appris cela. Le plus grand meurtre, c'est être poussé dans l'eau.
Mais s'il s'est nagé.
Comment ?
Si l'autre il s'est nagé.
Oui, mais c'est en pleine mer que c'est drôle.
Ah.
Lui, Dieu va donc nous étonner. Le miracle, c'est mirror, c'est ce qui se voit et ce qui est éclatant à la vue. Le mirror, c'est ce qui fait briller, mais pour que l'œil le voit briller. Et miracle, c'est ce qui est vu, qui est discerné par la vue parce que c'est brillant. Mais, voyez-vous, lorsqu'un maître d'école vous dit que 2 et 2 font 4, que la base 10, eh bien, vous lui faites confiance. C'est l'autorité du maître d'école. Et quand quelqu'un vous dit qu'il y a une vie après la mort et que vous êtes jugé par Jésus-Christ, ça, c'est moins, si vous voulez, c'est moins évident. Que le Christ inspire confiance, qu'on le veuille ou non, et ça fait partie de l'apologétique, c'est-à-dire de la défense de la religion. Jésus n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Ça, c'est un fait. Et vous avez d'autres fondateurs de religion qui n'ont pas eu une vie morale aussi parfaite. Ce n'est pas négligeable. Jésus était un saint homme. Alors, la difficulté, c'est donc d'arriver jusqu'à la divinité. Saint Jean chapitre 3 verset 2. Rabbi, nous savons que vous êtes un maître venu de Dieu, car nul ne saurait accomplir les prodiges que nous vous voyons faire si Dieu n'est avec lui. Qui dit ça? C'est Nicodème, qui est membre du grand conseil des 72 sages d'Israël, ou 70, 72. Et du Sanhédrin, et comme il est très jalousé, très méprisé, ce membre du Sanhédrin vient voir le Christ la nuit. Mais lui, il est étonné de voir Jésus transformé de l'eau en vin, multiplié de la matière, des poissons, du pain. Appeler les poissons dans des filets, arrêter une tempête dans sa manifestation maximum, c'est-à-dire aplatir un lac qui est en plein bouleversement, faire disperser des nuages en un instant. Vous voyez. Et saint Pierre, lui, se met à genoux et dit, comment dire, éloignez-vous de nous. Moi, je suis pécheur, je peux pas. C'est un grand prophète parmi nous. Alors, Nicodème, lui, est étonné, mais il n'est pas encore emporté. Il vient le voir de nuit. Preuve de l'authenticité de son message, les miracles de Jésus témoignaient aussi en faveur, donc, de la divinité de sa personne. Quel est donc celui-là, murmurait-on, quand on le voyait commander d'un geste irrésistible au flot et à la tempête, ou se faire obéir des esprits infernaux? C'est-à-dire que les exorcismes, c'est connu. Une des raisons de la sortie du peuple juif d'Égypte, c'est que la religion égyptienne est une religion de démons. C'est le culte des démons. Osiris, Isis, tout ça, ce sont des personnes mélangées avec des démons, des cultes démoniaques, et Horus et compagnie, tout ça, ce sont des démons. Et qui jouent avec les Égyptiens pendant des siècles. Alors, bien sûr, la nature humaine n'adhérant pas facilement au cynisme et à la cruauté démoniaque, vous avez des morceaux de vérité dans la religion égyptienne, qui est le jugement de l'âme. Par rapport au bien et au mal, mais par rapport au bien et au mal, fait par rapport à des démons qui sont capricieux, à des dieux qui sont capricieux dans ce qu'ils vous demandent. Vous devez avoir peur, vous devez être maudit, vous devez être... Mais il y a une notion aussi de punition si l'âme n'est pas jugée, ou est jugée trop lourde de péché. Voyez. Mais il y avait une très grande cruauté dans la religion égyptienne, et la pratique des exorcismes était courante chez les Hébreux. Que le Christ fasse des exorcismes en un instant, c'était stupéfiant pour des rabbins. Nous-mêmes, lorsqu'on un prêtre est choisi pour avoir la délégation de l'évêque pour faire des exorcismes, eh bien, parfois, on fait plusieurs exorcismes par rapport à quelqu'un qui a fait du spiritisme de manière très intense et qui s'est retrouvé avec 1, 2, 7, 100 démons en elle. Parce que les démons, ça prend pas trop de place, vous voyez, il n'y a pas de matière. Donc quand ça rentre dans votre corps, ça cohabite avec votre âme. Mais ça ne pénètre ni votre intelligence, ni votre volonté. Ça peut par contre agir sur votre corps pour faire des images. Vous voyez, comme ce qui nous entoure agit sur le nerf optique, qui provoque des images dans notre cerveau qui sont abstraites par l'âme, eh bien les démons peuvent susciter des pensées par l'imagination, par des locutions intérieures, mais ils ne peuvent pas entrer dans l'âme, ils ne peuvent pas subjuguer votre volonté. Eh bien, que le Christ chasse ses démons, à un moment donné il les chasse, mais très visiblement, ce pauvre homme avait des centaines de démons en lui. Il se jetait dans le feu, il se jetait dans l'eau, il se cognait contre les murs, il se déchirait, enfin c'était terrible. Tout le monde savait que c'était un énergumène. Et de nos jours, on lui aurait donné du Prozac et ça aurait été tranquille. Sauf que c'était pas ça. Et même actuellement, on sait que vous avez des personnes qui sont dans des hôpitaux psychiatriques et qui sont des possédés. D'autres sont de vrais malades. Alors qu'est-ce qu'on fait? À Paris, le grand exorcisme de Paris vous fait le coup de l'eau bénite ou pas bénite. Il fait des tests comme ça, tout simplement. Il arrive, il prend de l'eau non bénite et il touche au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Si la personne dit « Ah, ça me brûle !» Le démon, lui, sait que c'est de l'eau naturelle. Lors d'un exorcisme il y a moins d'un an, vous avez un prêtre néerlandais qui a dit en néerlandais: sort de ce corps, et le démon qui était dans la personne a répondu dans un néerlandais classique parfait: non, je ne sortirai pas de ce corps, j'y suis bien, je ne veux pas retourner en enfer. Et bien je peux vous assurer que ensuite Ils ont continué les exorcismes, plusieurs exorcismes, hein, sur plusieurs semaines, d'une manière très pieuse, parce que c'était certain qu'il y avait un esprit dans cette personne. Parce que elle pouvait pas du tout parler néerlandais. Et en plus, sans aucune fausse grammaticale, et dans un néerlandais parfait. Et ça, c'est assez impressionnant. Donc le Christ fait ce genre de miracle qui est de chasser des démons d'un corps. Il crée de la matière. Il va être maître de la loi de la gravité en marchant sur l'eau. Oui. En face des incrédules obstinés, c'était pour lui un argument très fort. Si vous ne croyez pas en ma parole, rendez au moins témoignage à mes œuvres. Elles démontrent assez que qui je suis. En outre, cette action souveraine sur la nature visible était un signe de la transformation que le Verbe incarné se proposait d'opérer dans le domaine spirituel. N'avait-il pas soin, du reste, chaque fois qu'il accordait un bienfait corporel, d'attirer l'attention sur la rémission des péchés? Le Christ ne fait jamais un miracle sans associer à la conversion. Et la résurrection d'un mort signifiait que la vie de la grâce serait rendue aux hommes. La guérison des lépreux annonçait la purification des âmes souillées par le péché. Les yeux d'un aveugle, soudain ouverts à la lumière, c'était le présage que l'humanité serait tirée des ténèbres de l'ignorance et de l'erreur et marcherait dans le rayonnement du Verbe devenu la lumière du monde. C'est la raison pour laquelle, voyez-vous, quand il y a un certain nombre de miracles qui ont été opérés, Dieu n'en fait plus ou en fait moins. N'oubliez pas que lorsque l'archange Gabriel apparaît à Zacharie dans le temple de Jérusalem, ça fait plus de 200 ans qu'il n'y a pas de miracle en Israël. C'est-à-dire que le peuple juif, qui a vécu des moments intenses de prophétie et de miracles, s'est retrouvé pendant plus de 200 ans sans miracle. Eh bien, nous-mêmes, il y a des miracles qui ponctuent encore notre vie contemporaine. On les méprise, on ne s'en soucie pas, on n'en fait pas la publicité. Ils sont pourtant là, ils sont moins nombreux, mais ils sont là. Comme par exemple Marthe Robin, qu'on le veuille ou non, il est absolument prouvé qu'elle n'a ni mangé ni bu pendant plus de 50 ans. Ça, c'est contraire aux lois naturelles. Elle est morte dans les années 80. Et le père Yannick Bonnet, qui l'a connu, voyez, attend une annonce qu'a fait Marthe Robin qui dirait que la France descendrait au plus bas possible et qu'elle se relèverait et que lui le verrait. Vu qu'il a 84 ans et des brouettes, oui, que Yannick Bonnet le verrait. Donc, oui, c'est pour ça qu'il y a une quinzaine de médecins autour de lui qui n'arrêtent pas de... Il a besoin d'un verre d'eau, la pomade. Il mange bio tous les jours, tout ça. On lui donne des oligo-éléments en permanence. Et... voilà. Et le padre Pio, qui avait les stigmates des peintres, n'est-ce pas, c'est au milieu de la main. Pourquoi le Christ ne lui a pas fait les stigmates dans le creux des métacarpes, c'est métacarpes? Mais enfin. Les os du poignet, ça s'appelle comment? Oui. Et là, vous avez tous les nerfs. Donc s'il avait un trou à cet endroit-là, il aurait fallu que les nerfs soient en contact avec l'air, vous voyez, la myéline, tout ça, ça aurait dû être vraiment une symphonie tous les jours, vous voyez.
Mais après le Christ, c'est pas, il est percé comme ça en fait.
Non, ici.
Parce que moi j'ai entendu que c'était malgré qu'il disait, il y en a qui disaient comme ça.
Oui.
Il y a certaines icônes, c'est comme ça.
Oui, mais c'est le Saint-Suaire qui le présente vraiment très haut.
Ah, d'accord.
Et le Saint-Suaire, c'est vraiment très haut. Et c'est là où les os bloquent le clou. Oui. Alors, dérogation à l'ordre établi dans la nature par le Créateur et la Providence, le miracle ne peut être l'œuvre que de Dieu, auteur de la nature. Si l'on attribue des miracles à un saint, il faut avoir soin de préciser qu'il ne les fait pas, mais les obtient. Mais dans le langage populaire, on n'arrive pas. Oh, il a obtenu un miracle. Non, il a fait un miracle. Mais si vous vouliez être très théologien, vous dites pas non. Non, il a obtenu un miracle. Seulement de la puissance divine au titre de l'amitié et par la ferveur de sa supplication. Donc, quand le Padre Pio obtenait la guérison de quelqu'un, justement, ben c'est... Et d'ailleurs, le Padre Pio a opéré des guérisons où il apparaît en songe à la personne et le matin, la personne est guérie. Et c'est très amusant. Lui qui a utilisé l'argent qui avait été donné au monastère pour faire un hôpital ultra-moderne, la maison du soulagement de la souffrance, eh bien, il est apparu à quelques personnes guérissant la tumeur. Je crois qu'on attribue au Padre Pio ou à Saint Charbel l'extraction d'une tumeur cancéreuse avec la fermeture de la peau par un cheveu. Et le cheveu a été analysé comme étant un cheveu d'un homme d'un certain âge. Oui. Et là, voyez-vous, maintenant, si à Lourdes vous avez un bureau de constatation des miracles, c'est parce qu'ensuite, de nos jours, il y a tellement de personnes qui veulent être guéries, qui veulent vivre des guérisons, et l'Église a beaucoup de prudence. Elle ne va pas facilement reconnaître un miracle. Sur les 3 à 7 000 miracles qui sont notés sur les registres de Lourdes, il n'y en a que 70 actuellement qui font l'objet d'un décret épiscopal de l'évêque de Lourdes. Alors, ici, c'est tellement théologique que je passe. Il y a notre contribution au miracle qui est la foi. Et là, je voulais vous parler de quelque chose qui est un peu difficile à entendre. Voyez-vous, c'est le... Quand on a demandé des miracles à la Vierge Marie, aussi bien à Fatima qu'à dans un autre lieu que j'ai découvert, qui est Kérisinen, en Bretagne, qui est un sanctuaire... Comment ? Il y a un sanctuaire, attendez. Alors justement, donc, Kérisinen est discuté, donc je me rabattrai sur Fatima. Et Medjugorje, la même chose. La difficulté, voyez-vous, c'est la preuve d'un miracle, une apparition de la Vierge Marie, une locution de notre Seigneur Jésus-Christ, une apparition du Sacré-Cœur, une apparition de Saint Joseph, et la véracité du miracle. Voyez, vous avez l'enfant Jésus qui apparaît dans un Carmel. Eh bien, vous pouvez aller voir l'évêque et lui dire « Il semble que l'enfant Jésus soit apparu dans ce Carmel, mais vous ne pouvez pas affirmer que l'enfant Jésus soit apparu dans le Carmel. » Pourquoi ? Eh bien, parce que l'Église vous dit « Et si c'était un démon ?» qui a pris l'apparence du Christ, même l'enfant Jésus. Vous voyez ? Et cela, l'Église est prudente. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle ne va pas condamner sévèrement lorsque, avec le temps, il n'y a que de bons fruits par rapport à une apparition supposée. Elle va laisser les personnes le croire sans sévérité, vous voyez. Oui ?
Quand le petit Bernadette a dit au prêtre, elle parlait déjà en patois local et elle utilisait le mot immaculé. Alors, c'est un signe parce qu'elle ne savait pas.
Voilà. C'est une science qu'on ne peut pas acquérir par soi-même. D'avoir dit en patois l'Immaculée Conception, la probabilité pour qu'elle l'ait inventée est minime. Mais il y a eu d'autres faits qui ont fait la reconnaissance de Lourdes. La constance de la sainteté de vie de la voyante, le message lui-même, des miracles à l'occasion de prières à cet endroit, tout un ensemble de faits et la providence divine. Parce qu'il y a peut-être des apparitions qui sont authentiques et qui ne seront jamais reconnues par l'Église. Oui.
À ce moment-là, par rapport à la Genèse humaine,
oui.
Quels étaient les miracles qui se sont faits selon certains et qui sont tant reconnus par l'Église?
Eh bien, par exemple, il y a un fait particulier qui est une famille de Kérésinènes avait une fille d'une vingtaine d'années qui était très malade. On avait demandé des prières et comme il y avait donc dans le village cette sainte femme qui avait une vie très pieuse et qui on avait fini par savoir qu'elle avait des locutions et des visions, on lui avait demandé de prier pour elle. Et les apparitions qu'elle avait, je crois, et donc si c'est la Vierge Marie lui a dit non, elle ne guérira pas, mais elle mourra tel jour. Et 10 jours avant, tu la préviendras pour qu'elle soit encore mieux préparée. C'est une personne pieuse, hein. Donc elle a porté ce secret pendant quelques mois. Et puis 10 jours avant, elle est allée voir la famille. Elle leur a dit voilà. J'ai eu une révélation sur le fait que vous ne guérirez pas, mais que vous mourrez, et il faut vous préparer à la vie éternelle. Eh bien, aussi bien la famille qu'elle l'ont très bien pris. Et ça a été un fait marquant parce que elle est morte le jour exact qui avait été annoncé.
Oui. Il n'y a eu que ça ou...
Oh non, il y a eu d'autres faits. Il y a eu d'autres faits.
Ça n'est pas considéré comme un miracle.
Eh bien, l'évêque du lieu, pour l'instant, non.
Ils veulent pas voyez. Reconnaître...
Attendez la providence.